Bonsoir et bienvenue dans le Grain à Moudre d'été. Le sujet ce soir, été 2018, vivons-nous une nouvelle révolution sexuelle ? Le temps passe et les affaires de harcèlement sexuel s'accumulent. Un maître bouddhiste en Chine, une philosophe féministe habitent à Ronel aux États-Unis, tous deux contraints à la démission cette semaine. Des prêtres et des nonnes au Chili et en France, des youtubeurs accusés d'avoir profité de leur notoriété pour obtenir des faveurs sexuelles de la part d'adolescentes. La parole ne cesse de se libérer depuis l'affaire Weinstein. Il y a près d'un an, elle permet de prendre conscience de l'ampleur des violences sexuelles commises contre les femmes. Si l'on a choisi de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est aussi à cause de quelques magazines, des journaux qui, comme chaque année, choisissent l'été pour parler de sexe et de sexualité. Les Inrecuptibles et leur traditionnel numéro sexe, l'Obs qui a consacré un dossier aux hommes après le mouvement MeToo il y a 2 semaines, et Causeur qui titre « L'amour après Weinstein, malaise dans la libido ». On y parle tour à tour de désir, de domination, de victimisation, de virilité. Le débat est vif, loin d'être terminé, à tel point qu'on peut se demander donc si une révolution n'est pas en cours. Bref, vivons-nous une nouvelle révolution sexuelle ? Pour répondre à cette question, 4 invités. Victoire Thuaillon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, membre du collectif Les Journalopes et animatrice du podcast Les Couilles sur la Table, diffusé par Binge Audio. En duplex de Strasbourg, André Roche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités, professeur d'histoire. Vos travaux ont notamment porté sur la sexualité. Je cite 2 de vos livres. Le premier sexe, mutation et crise de l'identité masculine, et l'identité masculine à l'ombre des femmes, tous deux publiés chez Hachette. Au téléphone avec nous, Nathalie Bajos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes démographe et sociologue, et au téléphone également, Patricia Legouge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sociologie, enseignante à l'université de Strasbourg et auteur d'une thèse en 2013 sur les représentations de la sexualité dans la presse. Pour commencer, évoquons cette parole, ce discours sur le sexe et la sexualité aujourd'hui. Quand vous lisez, quand vous regardez des magazines, et notamment cet été, Victoire Thuaillon, est-ce que vous trouvez que quelque chose a changé dans leur manière de parler des femmes et des rapports entre hommes et femmes ?
Alors, si je regarde ce qui a été publié dans les journaux cet été, oui, je pense que quelque chose a changé, qui est qu'on ne peut plus ignorer l'ampleur des violences sexuelles faites aux femmes. On ne peut plus ignorer que c'est un sujet. Donc, on ne peut plus parler de sexualité sans prendre ça en compte. Enfin, dans la plupart des journaux grand public, des journaux généralistes. Après, c'est un peu différent pour les magazines féminins, qui là, font mine font comme si ça n'avait pas eu lieu. Mais voilà, c'est devenu un sujet.
Elles en parlent comme ils en parlent quand même, ces magazines féminins, peut-être un de manière un peu moins pointue et un peu moins importante que d'autres publications.
Oui, mais où ignore, où sépare radicalement les deux sujets, comme si en fait les violences sexuelles ça faisait pas partie de la sexualité, comme s'il y avait d'un côté le viol et de l'autre côté des relations hétérosexuelles normales, etc.
Patricia Legouge, vous qui avez consacré une grande partie de votre travail à la presse et à la manière dont la presse parle de sexualité et de femmes, qu'est-ce que vous pensez de cette question ?
Je pense qu'effectivement, tout ce qu'on a vécu cette année avec l'affaire Weinstein et cette libération de la parole est essentielle. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fera de cette libération de la parole, quoi ? Est-ce qu'on ira au bout de cette nouvelle révolution sexuelle, entre guillemets ? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va notamment dépasser la posture habituelle qu'on attribue aux femmes, qui est celle de la disponibilité sexuelle ? Ça, ce sera à voir, effectivement.
On va en parler, hein, évidemment, dans le cours de cette émission. Qu'est-ce qu'on va faire de cette parole ? Je me tourne vers vous, André Roche. Est-ce que vous avez vu, vous, de votre côté, le discours sur la sexualité évoluer au cours des derniers mois ?
Très fortement, bien sûr. Et je pense que ce qu'il y a dans mon esprit, ce qui domine, c'est que la presse, quel que soit son type, hein, que ce soit la presse écrite ou audio, etc., elle sonne, c'est une alarme qui est lancée, là où précédemment, je ne veux pas dire qu'il y avait de la compréhension, mais où il n'y avait pas un mouvement aussi puissant et aussi important du point de vue géographique que ce qui se passe à présent. Et puis une deuxième chose, c'est que dans ce cri d'alarme, non seulement bien sûr les femmes se sont impliquées. Cela, d'une certaine façon, paraît logique. Mais même les hommes ont participent à ce mouvement. Mmh. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on en soit dans ce mouvement de révolte, de révolution, à ce niveau. Vous disiez tout à l'heure une nouvelle révolution sexuelle. pourrait-on à un moment donné se demander, elle est nouvelle, c'est-à-dire qu'il y en a eu auparavant ?
Exactement, on parle souvent de 1968, de la fin des années 60.
Oui, alors 68, disons les années 60, et en particulier dès le début des années 60, les publications des psychanalystes américains sont publiées en France, évidemment celles aussi des psychanalystes, des psychologues français, mais ça marque quelque chose qui aujourd'hui peut nous porter à contresens, à savoir que la liberté sexuelle est admise comme faisant partie de la personnalité. Et de ce point de vue, le fait que l'enfant, très tôt, puisse exprimer des désirs sexuels est reconnu. Ça, c'était pour l'époque quelque chose d'extrêmement nouveau et extrêmement important. Aujourd'hui, nous sommes dans une toute autre, dans toute autre circonstance que celle-là. Et c'est précisément ce contraste, cette opposition peut-être pour certains, qui est intéressante à étudier.
Une question qu'on va continuer à creuser évidemment dans les minutes qui viennent. Je termine mon tour de table avec vous, Nathalie Bajot. Est-ce que de votre côté, vous partagez ce qu'ont dit Victoire Tuaillon, André Roche et Patricia Legouge? Est-ce que vous aussi, vous avez vu le discours sur les femmes et sur la sexualité plus généralement évoluer depuis le début de l'affaire Weinstein?
Non, je suis pas certaine que le discours sur la sexualité ait vraiment évolué. Ce qui est très marquant, c'est pas tant la dénonciation, parce qu'on avait il y avait déjà eu des épisodes de dénonciation, ne serait-ce qu'en France, si on pense aux affaires DSK ou Baupin. Ce qui est vraiment l'événement, je crois, c'est la mobilisation très très forte des femmes essentiellement, mais aussi d'autres acteurs, et une approbation très marquée du public. Donc je crois que c'est ça qui marque clairement une évolution très marquée du seuil de refus de ces pratiques, de ces comportements sexistes, que ce soit du harcèlement, des agressions, des viols. Pour autant, est-ce que le discours sur la sexualité a véritablement changé? Je suis pas forcément convaincue, et je pense que pour arriver à éclairer un peu cette question, il faut aussi penser la sexualité comme une sphère non autonome de ce qui se joue dans les autres sphères sociales, et parler peut-être plutôt de système sexiste plutôt que de pratique individuelle.
Pour continuer ce que vient de dire Nathalie Bajos, Victoire Tuaillon, on avait l'habitude de lire les magazines estivaux parlant de sexe comme d'un sujet assez léger. Est-ce qu'aujourd'hui le sexe est devenu un sujet particulièrement sérieux, engageant autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir encore une fois pendant cette période estivale?
Oui, c'est-à-dire que ça a toujours été traité, enfin il me semble que c'était traité, moi je lis des magazines féminins, je lis des magazines aussi généralistes depuis que je suis adolescente, et c'était toujours traité comme un sujet léger et pas très important, et de l'ordre de l'agréable et du plaisir. Et c'est vrai que là, si on prend en compte la question des violences sexuelles, on peut plus le traiter comme ça. Donc je suis pas sûre qu'il y a quelques années, il y aurait eu un sujet comme, là dans le numéro spécial sexe des Inrecuptibles, il y a MeToo dans le BDSM. Donc des affaires d'agression
BDSM,
sexuelle,
c'est dans le bondage,
domination, soumission, sadisme, masochisme. Et je suis pas sûre que l'année dernière même il y aurait eu un sujet comme ça, ou les années auparavant non plus. Après, il y a encore une fois des magazines, là j'ai acheté Cosmopolitan la semaine dernière, et il y a comme d'habitude un sujet sur 30 façons de passer une nuit haute et tout ça, et alors ça c'est des sujets qui sont publiés chaque année, où il n'y a absolument pas la question ni du désir féminin, parce qu'il n'y a rien qui, ni du plaisir féminin d'ailleurs, c'est comment faire plaisir à son partenaire qui est forcément un homme, et donc c'est forcément un rapport hétérosexuel, et donc là on reste dans le classique de chez classique quoi.
On va y venir à cette question du désir. André Roche, est-ce que le sexe est devenu un sujet sérieux avec ce mouvement MeToo et cette affaire Weinstein?
Je pense qu'il l'était déjà auparavant, simplement on en parlait moins. Par rapport à ce que vient de dire Victoire Tuaillon, j'ajouterais que les vacances, c'est l'été, les vacances, c'est un moment de disponibilité, et le fait qu'un événement comme le désir et le plaisir sexuel puisse surgir, fait partie de cette disponibilité des uns et des autres, des unes et des autres, durant cette période. Donc le fait que les magazines et la presse en général fassent une part plus importante à la sexualité durant ces moments-là, il faut peut-être aussi le saisir comme un événement, en sachant que c'est un événement qui peut ensuite devenir une rencontre, qui peut ensuite devenir un lien, etc., etc. Donc, j'ajouterais à ce qui a été dit cette information-là.
Patricia Legouge, on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission des magazines et de la manière dont leur discours a évolué, mais ce n'est pas le seul domaine touché par cette affaire Weinstein. Est-ce que, selon vous, les codes ont changé depuis est-ce qu'il y a eu des changements, en fait, dans les rapports quotidiens entre hommes et femmes?
Alors, ce qu'on observait, c'est qu'en fait, les normes peuvent, elles, évoluer, c'est-à-dire notamment les discours qui sont relayés, mais pour autant, les pratiques peuvent être parfois détachées des normes. Le discours qui est tenu ne se traduit pas forcément tout de suite dans les pratiques. Mmh. Et j'aimerais revenir sur ce que disait Victoire Tuaillon sur la légèreté des discours, notamment dans les magazines féminins. Alors certes, il peut y avoir une impression comme ça de sujet gadget, mais en creux, on se rend compte que ces sujets sont vraiment chargés d'enjeux existentiels, notamment quand c'est à destination d'un public féminin. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs pour les magazines qui étaient à destination d'un lectorat masculin, où là, effectivement, on restait sur un registre léger et où on était vraiment dans le domaine du récréatif. Quand c'est à destination des publics féminins hétérosexuels, que ce soit adolescents ou adultes, le discours est vraiment chargé d'enjeux existentiels. Il s'agit d'affirmer sa liberté, sa dignité, donc ce qui n'est pas du tout, par exemple, porté dans un discours à destination des hommes.
Mmh. Nathalie Bajot, sur ce point.
Moi, je dirais qu'avec un petit peu de recul, parce qu'on a la chance en France d'avoir des grandes enquêtes sur la sexualité depuis le début des années 70.
Auxquelles vous avez contribué d'ailleurs, hein, avec l'INED.
Avec Michel Bozon, absolument, et Alfred Spira pour celle de 92. Quand on regarde un peu les évolutions depuis le début des années 70, ce qui est assez frappant, c'est que, en ce qui concerne les pratiques, que vous preniez l'âge au premier rapport, le nombre de partenaires, le fait d'avoir eu des rapports avec une personne de même sexe, les pratiques sexuelles qu'on expérimente, tous les indicateurs montrent que les femmes rapportent une sexualité de plus en plus diversifiée, de plus en plus déconnectée des enjeux strictement reproductifs de la sexualité. Mais dans le même temps, et c'est un véritable paradoxe, les représentations de la sexualité, elles, évoluent beaucoup moins, voire restent extrêmement stables. Et je voudrais juste donner un exemple qui est vraiment marquant, c'est la représentation qui constitue véritablement le socle de toutes les représentations de la sexualité, c'est de considérer que les hommes auraient, par nature, plus de besoins sexuels que les femmes. Et si j'insiste sur cette dimension-là, c'est parce que on voit dans les travaux qu'on a réalisés que c'est une opinion à laquelle, une croyance à laquelle adhère la grande majorité de la population, aussi bien les femmes que les hommes, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, et qui évolue très très peu au fil du temps. Et on arrive face à une espèce de tension entre des pratiques qui sont de plus en plus égalitaires, même si elles restent marquées par des différences très importantes entre les femmes et les hommes, et des représentations qui, elles, restent très différentialistes de la sexualité. Et on est dans ce contexte-là, qui n'est pas le même que celui qui prévalait dans les années 70. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui autour des affaires MeToo, Weinstein, etc., ça survient dans un contexte, et c'est sans doute très différent, et c'est sans doute ce qui explique l'ampleur massive de cette mobilisation à laquelle on assiste. Parce que finalement, j'aurais envie de dire, il faut presque arrêter de parler de sexualité pour comprendre ce qui se passe dans l'affaire de la sexualité. Au sens où si ces mouvements ont été aussi et sont aussi massifs, même s'il faudra évidemment revenir sur qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est aussi parce que aujourd'hui, par rapport à ce qui se passait dans les décennies précédentes, le statut social des femmes a beaucoup évolué, l'égalité dans la sexualité est plus marquée, comme je le rappelais à l'instant, au niveau des pratiques, les femmes sont beaucoup plus présentes dans la sphère du travail, elles sont beaucoup plus présentes dans la rue, on a un dispositif juridique aujourd'hui en France extrêmement complet, et finalement, une des façons de lire ces réactions dont on parle, c'est aussi comme une espèce de rappel à l'ordre, ces comportements sexistes, qu'ils relèvent du harcèlement ou des agressions, c'est comme une espèce de rappel à l'ordre de genre, c'est-à-dire une façon de signifier aux femmes quelle est leur véritable place dans la société. Je crois que ce serait une erreur d'avoir une lecture exclusivement sexuelle, en termes d'analyse de la sexualité, de ce qui se passe autour de ces réactions qu'on observe aujourd'hui.
Patricia Legouge, je voulais réagir à ce que vous disiez.
Je voulais juste compléter ce que disait Nathalie Bajos, c'est aussi que le discours en matière de sexualité, notamment à destination des femmes, donc au-delà du fait qu'effectivement on aurait une surexpression du désir masculin et qui serait forcément beaucoup plus expressif et présent qu'un désir féminin, c'est aussi que la sexualité, enfin les discours en matière de sexualité à destination des femmes sont toujours là pour, encadrent toujours la sexualité pour les femmes est toujours encadrée dans un cadre conjugal et romantique. On a du mal pour l'instant, notamment dans les discours de presse, à dépasser ce cadre. Et du coup, effectivement, on reste dans cette halo de disponibilité sexuelle et on a du mal à passer à ce que j'appelle l'appétence sexuelle à destination des femmes, c'est-à-dire la promotion d'une sexualité qui aurait comme première finalité la recherche du plaisir sexuel.
Et le désir dans tout ça, Victoire Thuaillon, parce qu'on l'a évoqué hein, il y a quelques instants, c'est l'une des questions centrales de ce débat depuis l'affaire Weinstein, le désir féminin. Comment se construit-il aujourd'hui? Est-ce que sa construction peut changer aujourd'hui?
Oui, en fait, la question qui a été mise aussi au premier plan, c'était la question du consentement, qui était quelque chose dont on ne parlait pas. Et là, il y a plein de féministes qui disent que bon, on peut aussi aller plus loin que la question du consentement. C'est la question du désir, en fait. C'est-à-dire de penser les femmes comme des sujets de désir et pas uniquement
objets.
Comme des objets de désir. Alors que, en fait, là, c'était plus ou moins ce qui se passait, quoi, dans les discours. C'était ça. C'était, et dans les représentations, c'est, les femmes disposent et les hommes ont ce désir sexuel plus important, etc. Et donc, comment se construit le désir? Comment se construit? Bon, évidemment, enfin, je rejoins complètement Nathalie Bajos quand elle dit qu'il faut, il faut pas parler de sexualité comme si c'était qu'une question sexuelle. En fait, la sexualité, c'est politique et ça se construit, pas uniquement dans les interactions sexuelles, en fait. C'est toute la culture qui nous dit ce qu'on est censé désirer, comment on est censé le désirer, quel comportement il est convenable d'avoir ou pas. Et alors comment ça se construit? Donc moi, je suis pas sociologue, mais ça se construit par dans les représentations culturelles, donc les séries télé, les films, les chansons, par l'imitation, par les injonctions qui sont faites. Et donc là, c'est vrai que même si les femmes sont un peu plus libres, je pense qu'il y a plusieurs décennies, il y a quand même des charges très fortes qui pèsent sur leur sexualité. Donc on sait que en tant que femme, quand on se construit comme jeune fille, on est censé avoir un désir justement romantique, un désir sexuel qui se construit dans une relation romantique qui est plutôt hétérosexuelle,
pas seulement, hein.
Et alors que évidemment, alors qu'il y a plein d'autres cas de figure qui existent, mais voilà, c'est plutôt ça qu'on a comme injonction, quoi.
André Roche, sur cette question du désir, est-ce que construction sociale du désir féminin est l'un des enjeux, si ce n'est l'enjeu principal de ce débat après l'affaire Weinstein?
Oui, absolument, et je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. J'ajouterais quand même deux ou trois choses. La première, c'est que tout à l'heure, nous parlions de la révolution sexuelle des années 60. En quoi consiste-t-elle, grossièrement, hein, on ne va pas entrer dans le détail, mais grossièrement, elle consiste à déconnecter le désir des interdits, des institutions, de la morale, de l'éducation, appelons-la intellectuelle ou professionnelle. Autrement dit, ces années 60 sont le moment où, dans notre civilisation, je dis bien dans notre civilisation européenne, occidentale, le désir est reconnu, et non seulement il est reconnu, mais il est suscité. C'est là un premier élément. Je donnerai une deuxième information. Tout à l'heure, vous avez bien insisté sur le fait que la sexualité masculine s'était, sinon développée, en tout cas avait été entretenue dans cette idée de l'instrumentalisation du corps de la femme. Autrement dit, elle, en tant que sujet, n'apparaît pas vraiment, pas toujours, pas souvent, pas assez souvent, dans les discours sur ce thème. Et de ce point de vue, je voudrais peut-être aussi souligner que petit à petit, un certain nombre d'hommes, je pense qu'ils sont nombreux, je l'espère, trouvent leur propre plaisir à travers la satisfaction que la relation avec une femme, la relation sexuelle avec une femme, ou peut-être avec un autre homme, développe au cours de cette rencontre. Et ceci traduit une évolution des statuts. des statuts de l'un et de l'autre. Je ne veux pas dire qu'il est égalitaire, je veux dire qu'il reconnaît l'autre comme sujet, ou en tout cas, nous espérons qu'il pourra le reconnaître. Et précisément ce qui se passe dans l'affaire Weinstein, c'est que lui, d'après ce que nous en savons, lui n'a pas reconnu que ces femmes étaient des sujets. Il a fait, d'une certaine manière, une collection d'objets qui lui donnait du plaisir à un moment donné.
Le désir, on va y revenir dans quelques instants. Vous avez prononcé le mot d'égalitaire, André Rau. Je voudrais entendre Patricia Legouge sur cette question. Est-ce que c'est là aussi l'enjeu de la libération de la parole et du débat qui est en cours, l'égalité entre hommes-femmes, pas l'égalité des sexes, quoique, mais surtout l'égalité sexuelle, en fait, que hommes et femmes aient finalement le même accès à la sexualité?
Oui, mais justement, c'est intéressant de se pencher sur qu'est-ce qu'on entend, enfin, qu'est-ce que contiendrait cette sphère sexuelle, et la question du désir, elle est essentielle, parce que je crois que la question du plaisir, elle est plus intégrée, c'est-à-dire que effectivement, depuis les années 60-70, le fait que la procréation ait été mise à distance de la sexualité grâce aux moyens de contraception et à la dépénalisation de l'avortement faisait entrer plus fortement cette question du plaisir dans la sexualité, c'est-à-dire qu'était reconnu dans la sphère publique le fait qu'on pouvait avoir des rapports sexuels à d'autres fins que à des fins de procréation. Mais la question qui est essentielle en dessous et qui n'a pas été du tout finalisée et peut-être même pas touchée du doigt, c'est effectivement la question du désir pour les femmes hétérosexuelles. Et la question du désir pour les femmes hétérosexuelles, c'est effectivement sa construction, mais ça veut dire que ce désir, il est projeté sur des objets, et des objets qui seraient donc des hommes hétérosexuels. Et ça veut dire que là, la révolution, elle doit être là, c'est-à-dire que on va devoir éduquer aussi les hommes à être de potentiels objets de désir sexuel, et que ce ne soit pas forcément une posture qui est passive, qui soit aussi reconnue comme pouvant devenir après une posture de sujet, parce que moi je ne fais pas de rupture entre objet sexuel et sujet sexuel. Il peut y avoir des passages et des allers-retours entre les deux postures, mais ça veut dire que cette question de comment les hommes peuvent se mettre en scène, peuvent devenir des objets de désir sexuel, des objets de désir sexuel peuvent être en posture de disponibilité sexuelle, elle est essentielle, parce que le peu de fois où il y a eu des tentatives en mettant des hommes dans ces postures-là, ils ont été considérés, enfin, le public a été complètement nié, le potentiel public a été complètement nié, et la posture a été considérée comme étant forcément à destination d'un public gay, pour dire à quel point le désir féminin ne pouvait même pas être entendable.
France Culture, du grain à moudre d'été, Antoine Genton.
Je voudrais qu'on écoute maintenant une voix un peu discordante, parce qu'il y en a eu dans ce débat depuis l'automne dernier, l'automne 2017. Car pour certains, le discours féministe, enfin en tout cas un discours féministe, du moins, que certains qualifient de néo-féminisme, c'est un discours victimaire. Il ferait des femmes des victimes. C'est une religion victimaire qui est en train de s'imposer, écrivait entre autres Elisabeth Lévy dans le Figaro en janvier dernier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Victoire Thuayon?
Évidemment non. Enfin, je veux dire, je comprends pas du tout de quoi elle parle. J'ai du mal à voir ce qui se passe dans sa tête, quoi, dans la tête de ceux qui parlent de ça, parce que moi je vois pas du tout des femmes qui se revendiquent comme victimes et uniquement. Mais enfin, en tout cas, c'est pas un statut qui est unique, et c'est juste une énonciation des faits, en fait. Donc non, je ne crois pas du tout que ce soit une religion victimaire.
Ce qu'elle reproche aussi à certaines féministes, c'est un discours offensif, accusateur, qui blâme des hommes.
Bah oui, mais enfin, à un moment, je veux dire, les femmes, elles n'ont pas été agressées sexuellement par des ornithorynques, en fait. Elles ont été agressées par des hommes. Donc, enfin, dans l'immense majorité des cas, les agressions sexuelles, elles sont faites par des hommes sur des femmes. Et ça concerne, on considère qu'il y a 13% des femmes qui ont été un moment ou un autre de leur vie abusées, et par des gens qu'elles connaissent et par des hommes qu'elles connaissent. Donc ça concerne un paquet d'hommes. Et je veux bien que ce soit difficile à admettre de penser que peut-être et certainement on connaît tous des agresseurs, et peut-être notre cousin super sympa et nos amis et nos pères et nos frères, etc., ont eu des comportements d'agresseurs sexuels. Mais moi, ça me semble au contraire réaliste et sain que d'être capable de le reconnaître calmement, en fait, et d'arrêter d'hystériser le débat comme elles le font.
Ces critiques reviennent aussi sur la domination, en tout cas le rapport qui existe aujourd'hui entre hommes et femmes, un rapport qui n'est pas vraiment remis en cause. La domination, donc, d'une certaine manière, de l'homme sur la femme, les exemples sont nombreux, c'est un modèle qui est bien installé, c'est ce qu'a dit notamment la réalisatrice et documentariste Ovidie à Marine Le Rouge.
Le fantasme de domination, il est omniprésent. On le retrouve, bon, évidemment, dans la pornographie, ça c'est certain, c'est une évidence, mais on va le retrouver aussi dans des succès comme 50 nuances degrés, on va le voir même dans les séries. Alors, est-ce que si on a des fantasmes de domination, c'est ce qu'il faut s'auto-flageller en disant « Oh là là, mon Dieu, c'est pas bien ce que je fais, c'est de la misogynie intégrée, je devrais pas avoir ce type d'envie ». Non, il faut pas se culpabiliser. En revanche, on peut quand même s'interroger sur la provenance de nos fantasmes. Et à mon avis, nos fantasmes, ils arrivent pas ex nihilo. Ils sont quand même en partie le fruit d'un conditionnement culturel et de la façon dont on absorbe toutes les images qui nous entourent. Et c'est vrai que si on grandit aussi avec une survalorisation et une surreprésentation de la domination, évidemment qu'on va finir par intégrer ça comme normal, dans le sens où c'est la norme, et dans le sens où il faut se plier à cette norme. Et puis évidemment, c'est pas des images de madame qui domine monsieur. Ou alors ça va être dans des films comiques à la française, ou alors dans des publicités, ou dans des choses comme ça. Et ça va avoir une dimension comique. Une femme qui domine un homme, c'est drôle. Un homme qui domine une femme, c'est finalement normal. Donc c'est, moi ce qui me chiffonne, c'est que ce soit toujours dans le même sens. Et que finalement, ça arrange un peu tout le monde. C'est-à-dire, ça ne perturbe pas l'ordre établi.
La domination comme ordre établi, dit Ovidie, majoritairement représentée, hein, c'est la représentation majoritaire. André Roche, est-ce que c'est un modèle dont il faut se débarrasser, et si oui, dont on peut vraiment se débarrasser ?
Très bonne question. Effectivement, je crois qu'on peut parler de victime quand une personne, par la violence, est soumise à la domination d'une autre. De ce point de vue, c'est la réalité pure et simple. Mais ce qui est en train de changer, ce qui va changer, me semble-t-il de façon très importante, c'est la séduction. C'est-à-dire, comment approche-t-on un autre ? Comment lui exprime-t-on son désir sans que pour autant il y ait violence ? Et de ce point de vue, il me semble que ce qui est en train de se produire, c'est que ces grandes figures de la séduction que nous retrouvons évidemment dans la presse, que nous retrouvons éventuellement dans l'iconographie, ces grandes figures de la séduction ne peuvent pas perdurer. Elles vont de façon irrémédiable, elles vont changer profondément, aussi bien dans les gestes, dans les paroles, dans les regards, dans les moments où on se retrouve et les lieux que l'on choisit pour cela. Et c'est cela, je crois, ce qui est en train de bouleverser notre relation sociale. La séduction qui n'est pas du tout, dans mon propos, n'est pas du tout péjorative, va prendre d'autres formes, d'autres aspects. De même qu'il y a eu vraisemblablement dans notre histoire un moment de la grande courtoisie, aujourd'hui il y aura sans doute la naissance de nouveaux profils de séduction.
Nathalie Bajos.
Oui, moi je voulais revenir sur ces enjeux de fantasmes de domination, d'égalité dans la sexualité. Encore une fois, je crois que c'est vraiment important de bien penser que ce qui se joue dans la sphère de la sexualité, ça n'est pas du tout autonome de ce qui se joue dans les autres sphères sociales. Et il faut véritablement parler de rapports de pouvoir, mais de rapports sociaux de pouvoir. Il ne s'agit pas d'opposer les pauvres femmes victimes ou la pauvre femme victime et le méchant homme harceleur. Ce qu'on voit se jouer dans la sphère de la sexualité, c'est le reflet des rapports de pouvoir qui existent dans les autres sphères sociales. Et je crois que si on continue à penser les choses uniquement au sein de la sphère de la sexualité, on n'arrivera pas, si on analyse les choses de cette façon-là, on n'arrivera pas non plus à proposer des évolutions qui permettent de véritablement changer les choses. Les rapports de pouvoir dans la sexualité sont le reflet des rapports de pouvoir qui existent, sont le reflet des inégalités de salaire, sont le reflet entre femmes et hommes, sont le reflet de l'inégal partage des tâches domestiques entre les sexes, sont le reflet de l'absence massive des femmes dans les sphères de direction ou dans le milieu politique. Donc c'est vraiment un reflet. Donc si on pense que les choses vont changer avec ce type de mobilisation et que ça va permettre véritablement de faire émerger une autre culture de la séduction, si on n'attaque pas les choses à la racine, à savoir les inégalités sociales entre les sexes,
sexes, mais d'ailleurs qui ne sont pas qu'entre les sexes, hein, qui sont aussi des inégalités liées à la race, liées à l'âge, liées à l'orientation sexuelle. Si on ne prend pas en compte toutes ces inégalités, il y a peu de raisons, sociologiquement parlant, que les inégalités, les rapports de pouvoir dans la sexualité, tout à coup, se mettent à disparaître sous l'effet d'une mobilisation aussi massive soit-elle. Et je crois que c'est vraiment là l'enjeu de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui à travers cette mobilisation fantastique qui fait que aujourd'hui on parle et ça a un effet qui permet de décupler la parole et c'est extrêmement important. Bien sûr, c'est aussi extrêmement important que ces comportements sexistes qui sont dénoncés soient punis. Les dispositifs juridiques le permettent. Mais encore une fois, je parlais tout à l'heure du sexisme comme un système parce que c'est la force de ce système, c'est qu'il joue sur toutes les sphères en même temps. Les inégalités qui se déplacent dans un domaine, dans celui de l'éducation, elles vont se renforcer dans un autre et encore une fois ces comportements sexistes qui sont autant dénoncés aujourd'hui et c'est une excellente chose sont des comportements qui ont pour finalité de rappeler l'ordre du genre dans la société dans laquelle on vit et c'est une analyse globale qui peut permettre d'apporter des réponses qui soient véritablement politiques et surtout efficaces.
Une parole, Nathalie Bajos, pour appuyer votre propos, celle d'une humoriste australienne, Anna Gadsby, qui actuellement diffuse l'un de ses spectacles, son dernier spectacle, à tous les sens du terme d'ailleurs, Nanette sur Netflix. Anna Gadsby qui est revenue sur cette question du pouvoir dans son spectacle.
Toute ma vie, on m'a traité de misandre. Je ne déteste pas les hommes, sincèrement. Je ne hais pas les hommes. Mais il y a un problème. Je ne pense pas que les femmes soient supérieures aux hommes. Je crois que les femmes sont aussi corruptibles que les hommes. Parce que, vous savez quoi les mecs ? Vous n'avez pas le monopole de la condition humaine, bande de connards arrogants. Mais l'histoire est telle que vous l'avez racontée. Le pouvoir vous appartient. Et si vous n'acceptez pas la critique, ne supportez pas les blagues, et ne gérez pas vos tensions sans violence, demandez-vous si vous êtes à la hauteur de votre pouvoir. Je ne déteste pas les hommes, mais j'ai peur des hommes. Si je suis la seule femme dans une pièce pleine d'hommes, j'ai peur. Et si vous pensez que c'est rare, vous n'êtes pas à l'écoute des femmes.
La question posée est celle de la manière dont les hommes ont utilisé le pouvoir. Question posée par Anna Gadsby, donc, dans son spectacle, Nanette, Victoire Tuaillon.
Oui, un très beau spectacle, très beau passage. Oui, mais la question du pouvoir et de qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a et de la responsabilité et de ceux qui l'ont est très important. Et c'est vrai qu'il y a eu peu de discours publics là-dessus. C'est-à-dire que c'était quand même le grand silence quoi des hommes cette année, sauf pour dire des choses comme « Ah oui, mais c'est pas moi, c'est mon voisin, c'est les autres, c'est minoritaire, etc. » Alors que, bah oui, on attend des discours...
On ne rien dire du tout d'ailleurs.
Ou voir ne rien dire du tout, ce qui est une posture qui se comprend aussi, mais enfin, c'est vrai qu'on attend, des discours intelligents qui prennent en compte cette réalité-là, qui est que les hommes ont le pouvoir et que donc il va bien falloir qu'ils en lâchent un peu, quoi, si on veut aller vers plus d'égalité ou qu'on en reprenne.
Patricia Legouge.
Oui, je souhaitais vite préciser ce que vient de dire Victoire. C'était une phrase de Patricia Romito qui disait qu'effectivement tous les hommes ne sont pas sexistes, mais pour autant tous les hommes bénéficient du sexisme et des avantages qu'il leur procure. Donc effectivement les hommes vont, je crois qu'il est quand même essentiel de les associer à ces mouvements et peut-être aussi, alors c'est peut-être utopique de ma part, mais de leur montrer l'intérêt qu'ils peuvent avoir, et notamment en matière de sexualité. Moi je reviens toujours là-dessus, mais je pense qu'effectivement le corps des hommes n'est pas du tout exploité suffisamment. Le registre de leur pratique corporelle est quand même très limité, notamment dans une perspective hétérocentriste, et que
il l'est souvent dans une perspective homosexuelle.
Oui. Bah c'est plus comme c'est plus varié, c'est plus diversifié, c'est plus libre. Enfin c'est autre chose quand même. Hein.
Patricia Legouge.
Oui, c'est effectivement plus large et plus varié. Les postures sont plus multiples, les positions sont aussi plus multiples. Le corps des hommes, quand on y songe, la manière dont il est mis en scène, bah en fait, il est très peu mis en scène sexuellement. Et du coup, beaucoup de pratiques, de fluides, de leur sont interdits. Et effectivement, ça restreint du coup l'éventail des plaisirs. Et du coup, ça n'en fait pas des objets de désir. Si les femmes maintenant peuvent dire oh, il a un joli petit cul, il m'intéresse bien, elles sont pas en mesure de penser j'aimerais bien qu'il me fasse un cunnilingus. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas les femmes à ce désir et on n'éduque pas les hommes à devenir des objets de désir. Alors que je pense que du coup, il y a beaucoup à y gagner, à en finir. Enfin, est-ce qu'on y arrivera? Je ne pense pas, mais en tout cas, à avancer sur cette dissonance des désirs.
Victoire Tuyon et André Roche après.
Si tant est que l'enjeu de la sexualité soit vraiment celui de la recherche du plaisir, et moi j'ai des doutes là-dessus, je pense que justement sur cette question du pouvoir, la sexualité est peut-être très souvent utilisée comme lieu de pouvoir, comme lieu de réaffirmation de son propre pouvoir, notamment chez les hommes hétérosexuels, c'est-à-dire en gros j'ai eu telle fille... et en fait, ce qui compte, c'est d'avoir couché avec la fille pour pouvoir s'en vanter ou se réassurer sur son propre pouvoir plutôt que d'avoir recherché son plaisir. Et ça, je pense que c'est aussi un sujet qui est jamais abordé, en fait. La recherche du plaisir n'est pas forcément au centre de la sexualité masculine.
Avec ce que vient de dire Victoire Tuyon et Patricia Legouge, André Roche, est-ce que finalement, dans ce débat aussi, ce n'est pas la virilité qui est questionnée, comme l'a souligné un Lopes dans son dossier le 2 août dernier, Être un homme après MeToo? Certains hommes se sentent en danger avec la libération de la parole.
Écoutez, après tout ce qui a été dit sur les hommes, dans ce débat, je suis le seul homme. J'ai du mal à me reconnaître, mais c'est pas grave, hein, je ferai un effort pour comprendre.
Que ressentez-vous alors?
Ce que je voudrais dire peut-être, c'est que, bien sûr, il y a des comportements de fuite de la part des hommes. Il me semble que ils n'en sont pas les seuls propriétaires, que même une femme peut adopter à un moment donné un comportement de fuite. En ce qui concerne ce qu'a dit tout à l'heure Nathalie Bajot, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître que la sexualité est un reflet, enfin l'inégalité sexuelle est un reflet des autres inégalités. J'aurais simplement ajouté une chose, c'est que elle n'est pas seulement un reflet, elle en fait partie. Elle est un des mécanismes qui joue dans ces inégalités sociales. Ne la prenons pas simplement comme un reflet. Et puis enfin, vous dites que beaucoup d'hommes bénéficient du sexisme. Vous savez, il y a aussi des hommes en bas de l'échelle sociale. Il se trouve que je me lève tôt le matin et donc je rencontre les éboueurs de mon quartier. Est-ce qu'ils bénéficient toujours du sexisme? Je sais pas. Ils ont eux aussi les difficultés à trouver leur place dans la société, à trouver un statut et éventuellement même à trouver des partenaires pour les valoriser, pour leur montrer qu'en tant qu'homme, bien que ceci ou cela leur fasse défaut, ils restent des gens tout à fait respectables. Vous voyez, ce sont ces éléments qui me poussent à ne pas trop simplifier, même si je partage entièrement ce qui a été dit jusqu'ici, hein, c'est pas mon projet n'est pas de le contrecarrer. Alors vous m'avez demandé est-ce que je me sens fragilisé.
La question ne vous était pas directement adressée, mais bon, allez-y, répondez, André Roche.
Je vous réponds, c'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, tous ces hommes qui ont été mobilisés à la guerre de 14 ou plus tard, ils sont quand même 1 500 000 Français à ne pas être revenus de la guerre de 14. Vous croyez qu'ils n'étaient pas fragilisés, ceux-là?
Oui, mais c'était un autre sujet. Ça n'a en quoi liez-vous
oui,
ça à la
sexualité?
Il n'y avait
que des hommes sur le front, vous voyez, et c'était eux qui étaient visés. Donc, évidemment, j'ai choisi un exemple qui n'était pas le bon. Peut-être, mais sachons tout de même que cette fragilité masculine, de la fragilité des hommes, qui aujourd'hui peut apparaître comme un élément nouveau du rapport avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes sur le plan de la sexualité, il ne couvre pas toute l'histoire.
Je voudrais juste, pour terminer, qu'on revienne sur la question du désir, la construction du désir féminin en particulier. On l'a dit, cela passe par les magazines féminins, avec toutes les injonctions qu'on connaît, qu'on a lues. Vous en parliez tout à l'heure, Victoire Tuyon. questions. Il y a la pornographie également, avec là encore des codes bien précis qui formatent d'une certaine manière la sexualité pour ceux qui regardent des films pornographiques. Et puis il y a l'éducation aussi. Et je voudrais vous faire écouter un nouvel extrait du spectacle d'Anna Gadsby, Nanette. L'éducation qui touche évidemment le rapport homme-femme et qui touche à l'identité sexuelle. Anna Gadsby qui raconte ce que lui a dit sa mère un jour, Anna Gadsby, je vous le précise, qui est lesbienne et qui a fait son coming out il y a quelques années.
Elle m'a dit, mon seul regret est de t'avoir élevée comme une hétéro. J'ai fait une erreur, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je savais bien avant toi que ta vie serait difficile. Je le savais, et je voulais plus que tout que ce ne soit pas le cas. Je sais que j'ai aggravé les choses parce que je voulais que tu changes, car le monde, lui, n'allait pas changer.
Je t'ai élevé comme hétéro parce que je savais que le monde n'allait pas changer. C'est terrible. Est-ce que c'est là, dans l'éducation sexuelle, que Patricia Legouge se joue beaucoup de choses dans ce débat?
C'est vrai que cet extrait est vraiment frappant et juste parce que l'hétérosexualité telle qu'on la pense confère, ou en tout cas, c'est une véritable injonction qui est faite aux femmes et aux hommes en termes de posture à adopter dans un cadre hétérosexuel, où effectivement, on élève les femmes pour qu'elles n'aient pour seul désir que celui d'être désirées, et donc du coup elles vont devoir se parer de tout un ensemble d'atours pour se rendre disponibles sexuellement, et au contraire mettre les hommes dans une position de demande sexuelle, d'initiative sexuelle, et ne jamais penser que les positions peuvent s'inverser. La manière aussi dont on aborde la question du corps féminin, le silence qui a été fait pendant des années sur le clitoris, donc là, c'est assez salutaire, on avance aussi sur cette question. Mais effectivement, l'éducation, mais au sens large, hein, à la fois parentale, mais aussi à l'école ou auprès des éducateurs, il faut repenser vraiment la manière dont on parle de relations filles-garçons, mais pas seulement en matière de sexualité. Et c'est là où je rejoins tout à fait Nathalie Bajot sur le fait que la sexualité est complètement investie par d'autres sphères du social.
L'éducation, Victoire Tuaillon, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, a annoncé le mois dernier que dès la rentrée, il y aurait 3 séances par an d'éducation sexuelle. Est-ce que c'est une mesure qui apparemment existe déjà dans la loi, qui, selon vous, va dans le bon sens?
Oui, c'est toujours pareil. Si c'est appliqué, c'est toujours une bonne idée. Mais là, en fait, il y a déjà des cours d'éducation sexuelle qui sont obligatoires, mais je crois que de mémoire, il y a une énorme proportion d'établissements qui n'appliquent pas cette loi, donc il y a énormément de jeunes qui n'ont aucune éducation sexuelle dispensée par l'école, et en plus, il faut voir le contenu de l'enseignement de l'éducation sexuelle. On sait que en France, elle a quand même été beaucoup critiquée parce que c'est une éducation essentiellement hygiéniste. En gros, c'est comment ne pas attraper des maladies ou des bébés, et c'est tout en fait, alors que il y aurait tant et tant de choses assez simples finalement à mettre en œuvre, notamment sur le désir et le consentement. Comment savoir si mon partenaire est consentant? Il y a un paquet d'adultes qui semblent pas être au courant, quoi. Donc les adolescents et les enfants, les jeunes en tout cas, encore moins, ou sur des discussions sur le désir, sur ce qu'on a envie de faire ou non, sur ce qui est normal ou non, etc. Enfin, il y a vraiment énormément, je pense que ce serait très très utile, quoi, que ce soit une véritable éducation sexuelle.
Très rapidement, Patricia Legouge, il nous reste quelques secondes.
Oui, je voulais juste rebondir sur la question du consentement sexuel. Elle est toujours décriée, cette question, parce qu'on y voit quelque chose de très froid, une contractualisation entre partenaires qui signent un acte légal, alors qu'en fait c'est très intéressant cette question parce que ça réintroduit la question de la communication dans la sexualité et le fait qu'on assume la sexualité comme un loisir, et un loisir quand on le partage avec une ou plusieurs personnes, et ben on le propose. Et je trouve que c'est vraiment intéressant cette question du consentement sexuel parce qu'effectivement ça introduit de la communication dans la sexualité.
Et cette question elle est au centre aussi de ces cours d'éducation sexuelle qui seront dispensés donc dès la rentrée prochaine. C'est la fin du Grain à Moudre d'été. Merci à tous les quatre, Victoire Tuaillon, journaliste, membre du collectif Les Journalopes, Patricia Legouge, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, Nathalie Bajos, démographe, sociologue, et André Roche, professeur des universités, professeur d'histoire. Vous étiez en duplex de Strasbourg. Merci d'ailleurs à nos amis de France Bleu Alsace pour ce duplex. Un grand merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Laïla Saïdi, Copelia Ménardi, Isolde Sicard, Imen Mélaz et Marine Lerouge. Réalisation Alexandra Longuet, prise de son Jacques Hubert. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été.